les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier, Nathanaël Picasse.
Un sujet qu'on n'a pas vraiment l'occasion d'aborder souvent dans Aux frontières des séries, c'est les sitcoms, peut-être parce que le genre ne s'y prête pas vraiment. Aujourd'hui, on parle d'une sitcom un peu déjantée.
Oui, qui s'attaque au thème préféré des Américains, c'est-à-dire la famille. Donc en gros, aujourd'hui, ces stéréotypes et surtout la manière de ne pas les utiliser, si j'ai bien compris. C'est une série qui a été diffusée sur la Fox de 87 à 97 et c'est donc Marié deux enfants et c'est Nat qui nous en parle.
Je crois que c'est assez utile de parler quand même de Marié deux enfants puisque c'est quand même une série qui a révolutionné un genre qui ronronnait un peu depuis un petit moment. C'est une série qui a été créée par Ron Leavitt et Michael Moy. Et voilà, donc là on rentre vraiment dans le petit monde de la pire famille jamais inventée pour la télévision. Ils sont plus trash que les Simpsons, ils sont plus dysfonctionnels que les membres de la famille Fisher de Six Pieds Sous Terre. Enfin, c'est l'antithèse absolue de la famille traditionnelle. Voici les Bundy. Pour la petite histoire, sachez que la série a failli s'appeler d'abord Not the Cosby Show, donc pas le Cosby Show.
Tout un programme.
Voilà, et pour cause, parce qu'en fait les scénaristes voulaient vraiment créer une famille à l'opposé de toutes les familles présentes à la télévision à cette époque. C'était des familles gentilles, propres sur elles, bienveillantes, respectueuse, lisse, enfin la famille Cosby.
Et où tout le monde s'aimait.
Ici, c'est juste le contraire puisqu'ils se détestent totalement. Enfin, tous les membres de la famille se détestent. Bon, ils restent unis et soudés, l'air de rien, mais c'est quand même l'amour vache, on va dire. Et donc vraiment, ils ont créé une famille de beaufs, et dans le sens le plus cinglant du terme. Les scénaristes ont vraiment donné un gros coup de pied aux fesses au sitcom, donc qui était un genre assez ronronnant, et à l'Amérique bien pensante de l'époque. La série a tellement choqué à l'époque que certains représentants de la morale se sont élevés pour interdire la diffusion de la série, avec à leur tête une femme dont je ne me rappelle malheureusement plus le nom, mais qui s'est vraiment érigée en tant que représentant de la morale en disant « il faut absolument interdire cette série, c'est immonde ». Ça s'attaque à nos valeurs les plus essentielles, la famille. Bien mal lui en a pris, puisque son action a justement eu l'effet totalement inverse, puisqu'en alertant l'opinion publique sur l'existence d'une telle série, elle n'a fait que susciter la curiosité envers elle. Résultat, dès la deuxième saison, Marié deux enfants a vu ses taux d'audience exploser, et la série a quand même connu 11 saisons. Donc, et c'était assez marrant, j'ai beaucoup aimé ce petit clin d'œil des producteurs, puisqu'ils ont tenu à remercier cette femme d'avoir fait cette campagne de publicité malgré elle, puisque à chaque fois que la série était reconduite pour chaque saison, ils envoyaient un panier de friandises à la femme pour la remercier. Donc après 11 saisons, on se dit qu'elle a dû en recevoir quelques-unes.
Elle a dû les avaler de travers, surtout.
Oui, c'est ça. Et à mon avis, elle devait prendre un abonnement chez le dentiste. Attardons-nous maintenant quelques instants sur cette fameuse famille Bundy, histoire de comprendre les raisons qui ont poussé cette femme à se révolter. Je vais les décrire quand même du plus normal au plus trash, et bizarrement, c'est du plus jeune au plus vieux. Alors on commence par le plus jeune membre de la famille, qui est joué par David Faustino, Bud Bundy. Déjà, on peut un peu faire l'impasse sur ce nom redondant, signe d'un humour plutôt douteux venant de la part des parents.
Ça fait surtout aussi très nom de chien, je trouve.
Oui, c'est ça. Mais pourtant, Bud, c'est quand même le membre le plus intelligent de la famille. Il est un peu débrouillard. Il est celui qui est le plus à même de réussir dans la vie, puisque dans la première saison, déjà, c'est lui qui corrige la feuille d'un pot de sa mère, quand même, et qui arrive à trouver 4 fautes. Il a 7-8 ans, le gosse, quand même, donc pas mal. Mais il y a un hic, Bud est un obsédé, il passe son temps à se masturber devant des revues cochonnes et à faire l'amour à sa poupée gonflable. Étant donné qu'il n'arrive pas à conclure avec des filles, il est vraiment obsédé par son statut de puceau et il essaye absolument de passer outre. Malheureusement, personne ne veut de lui, le pauvre. Il subit les railleries de sa sœur, Kelly. Alors là, je crois qu'on peut pas passer maintenant sur elle. Voici la blonde idiote dans toute sa splendeur, interprétée par Christina Applegate. Kelly est le stéréotype absolu de la belle blonde dont le QI ne dépasse pas les limitations de vitesse en agglomération. Ça, c'est clair. La belle passe son temps à doubler ses classes pour aller étudier. C'est totalement idiot. Ça ne sert absolument à rien. Mais par contre, les garçons, ça l'intéresse. Donc, elle passe son temps à draguer les beaux mecs, à coucher déjà. Toute la famille le sait et tout le monde s'en fiche quelque part. Et donc, son autre passe-temps favori, c'est donc de railler son frère, qui le lui rend bien parce qu'il n'a pas la langue sans sa poche. Pour résumer un petit peu la relation qu'entretiennent le frère et la sœur, c'est aussi l'amour vache, ça c'est clair. Et Et surtout, quand Kelly demande à sa mère « Oh, ça te dérange pas que je me moque de Bud ?» Sa mère lui répond « Ben non, ma chérie, c'est pour ça qu'on l'a conçu, c'est pour qu'on se moque de lui. » On passe maintenant à la mère, Peggy. Alors ça, c'est la deuxième femme de la maison, qui est jouée par Cathy Sagal. Peggy semble être au premier regard une femme au foyer désespérée, une sorte de prémisse de la série du même nom, hein, parce qu'elle est délaissée sexuellement par son mari, elle semble être à la recherche d'affection, d'attention. Mais j'ai bien dit aussi que c'était dans les premiers instants qu'on pensait ça d'elle, parce que dès les premières minutes, on se rend compte que c'est pas tout à fait ça. Elle n'a rien d'un modèle, parce que Peggy passe son temps à ne rien faire. Alors, pas question pour elle de faire le ménage, de faire à manger pour les enfants ou pour son mari. Non, Peggy préfère plutôt voler l'argent de son mari, le dépenser en vêtements coûteux ou en jouant au loto, ou en allant dans les boîtes de striptease réservées aux femmes, où elle est une très grande habituée. Puisqu'ils ont carrément créé dans cette boîte de striptease des règles à cause de son comportement. Donc, c'est pour dire qu'elle y va assez souvent. Et last but not least, voici Al Bundy, le père, le patriarche, interprété par Ed O'Neill. Alors c'est le raté absolu. C'est une ancienne gloire du football de son lycée qui se retrouve dans une vie de famille qu'il n'a jamais voulu. Il déteste sa femme et ses deux enfants, mais il se trouve bien obligé de continuer à vivre avec eux. Il gagne très petitement sa vie en tant que vendeur de chaussures dans un magasin minable. Tout le monde d'ailleurs prend un malin plaisir à lui rappeler combien c'est un minable. Même la télévision arrive à le lui rappeler, puisque lorsque dans la première saison il regarde un jeu télévisé du style question pour un champion, il y a la question de l'animateur qui est: quel est le travail le plus dégradant pour un homme selon un sondage réalisé en Amérique? Le candidat répond vendeur de chaussures. Et le peu d'argent que Al gagne, quand même, sa femme et ses enfants s'empressent de lui prendre et de le dépenser rapidement. Je crois d'ailleurs que le générique symbolise assez bien cette situation, puisque on voit Al assis dans son fauteuil, la mine renfrognée, limite totalement dépassée par les événements, avec ses enfants qui viennent autour lui taxer de l'argent, sa femme aussi, et il finit même par donner de l'argent à son propre chien. Donc là, ça va très loin, et je crois qu'on peut dire que c'est un générique plutôt mythique.
Mythique parce que c'est le crooner mythique des États-Unis, c'est Frank Sinatra qui chante.
Aussi, et puis aussi parce que ce générique, déjà par sa laideur, est facilement remarquable, je dirais.
J'ai jamais compris l'intérêt de cette fontaine qui s'allume au début du générique.
C'est je sais pas, ça a peut-être une métaphore un peu oui, sexuelle.
Probablement, oui, mais à part ça...
Oui, parce que c'est un des thèmes majeurs de marier deux enfants, c'est bien le sexe.
Quelle transition.
Le sexe ou l'absence de sexe.
Oui, ou l'absence de sexe, mais j'irais plutôt quand même le sexe de manière générale, même si pour certains, il en manque. Enfin, en tout cas, c'est la frustration qui est...
Bizarrement, c'est d'ailleurs les femmes de la série qui sont très plus demandeuses, et les hommes qui sont demandeurs aussi, mais qui goûtent moins, on va dire.
Oui, enfin, ou qui essayent de goûter, mais qui n'ont malheureusement jamais ce qu'ils voudraient.
Voilà, tout à fait.
On flotte dans le stéréotype, là, non, il me semble.
Marier deux enfants, c'est quand même extrêmement stéréotypé, mais tous les stéréotypes passaient à la moulinette à l'acide sulfurique.
Oh Marie, tu es un ange.
Alors je ne suis pas folle. Tu voulais vraiment que je t'apporte toutes mes ordures ménagères?
Mais oui, ça va m'économiser du travail. J'ai un problème, mes ordures ne sentent rien. Oh, les tiennes non plus.
Évidemment, nous sommes végétariens.
Oh, c'est pas grave, je vais y ajouter les chaussettes calmes à donner à la fée.
Dis-moi, Peggy, c'est quoi tout ce cirque?
Je m'offre un magnétoscope.
Je vois.
Tu vois quoi? Tu as une sacrée veine. Tu gagnes ton argent en travaillant. Moi, je ne suis qu'une ménagère. Je suis obligée d'utiliser mon imagination et tout mon génie pour que Al me fasse un chèque. C'est tout un art de lui extorquer de l'argent. Al est plutôt du genre radin. Alors, je fais semblant de me tuer à la tâche. Et quand il va rentrer dans quelques minutes, il se jettera sur le divan, puis il posera une main sur son ventre et il mettra l'autre sur cette offre de magnétoscope.
À ta place, Peggy, moi je lui dirais: mon chéri, je veux un magnétoscope.
Mais non, Al n'est pas du tout le genre à se laisser posséder. Ce serait une mauvaise stratégie d'être franche. Il faut qu'il me voie trimer. Salamadoura, et il sera disposé à m'offrir le magnétoscope. Mais si je lui dis achète-moi un magnétoscope ou je m'en vais, il va juste me rire au nez en me disant qu'il a faim et que ça leur dure pas. L'homme, cher ange, doit juste être bon à signer des chèques. Je vais donc jouer les ménagères surmenées et j'aurai mon magnétoscope.
Mais est-ce que tu te rends compte que tu te déprécies?
La fin justifie les moyens et toc. Voilà, Hal.
Bon, eh bien, je vais rentrer.
Oh non, reste quelques minutes. Tu vas avoir la chance de pouvoir observer une vraie femme. Prête?
Mmh.
toi, chérie. C'est bon de te revoir. La journée a été bonne.
Je vends des chaussures, d'accord. Merde, mais qui se sent ici?
Ah, bah c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on mange?
C'est quoi, ça?
Aucune idée. Fais voir. Oh, ça alors, une publicité. Une offre spéciale pour les vidéos enregistreurs. Ah, ça vaut le coup.
Mais c'est encore une camelote japonaise.
Il y a un modèle allemand.
Oh, bah oui, alors.
Oh, c'est l'appareil idéal pour une famille comme nous, car tu pourrais enregistrer tous tes matchs de foot.
Quelle blague! Tu veux magnétoscope parce que tes deux émissions favorites passent à la même heure et que ça te rend malade.
Oh, pitié, Al, pitié, achète-moi un.
Mais...
Stop, arrêtez ça, c'est laid et répugnant.
Eh bien, va prendre l'air, pitié.
Al, il faut absolument que je t'explique. Peggy veut un magnétoscope, mais elle a peur que tu lui dises non.
Elle est plus intelligente que toi.
Comme on l'a dit au départ, Marie deux enfants, c'est une sitcom, donc forcément, ça brasse toujours les mêmes thèmes. Et donc, le thème de la sexualité est fort abordé, puisque là, on est vraiment très loin de ces familles asexuées qu'il y avait dans les sitcoms avant, comme le Cosby Show, où ils vivent tout au plus quelques gentilles amourettes avec de chastes baisers sur la bouche. Donc là, ici, ils cherchent vraiment à s'envoyer en l'air.
On se souvient du couple Becky et Jessie dans La Fête à la Maison.
On se demandait comment ils arrivaient à faire des enfants.
Ouais.
Mais bon, bref. Donc ici, comme je l'ai dit, Bud se masturbe à longueur de journée, Kelly couche avec pratiquement tous les hommes qu'elle rencontre, Al regarde des films porno dès qu'il le peut, d'ailleurs à chaque fois qu'il est installé dans son fauteuil, il glisse une main dans le pantalon, c'est très frais, et Peggy essaye aussi par tous les moyens de convaincre Al de lui faire l'amour, et là ça c'est vraiment le leitmotiv de la série, c'est le gag qui revient à chaque fois, c'est Peggy qui veut faire l'amour et Al qui se refuse à elle, parce que pour lui c'est une véritable corvée, et pour elle c'est un très bref moment de plaisir à passer, et je crois que l'utilisation du terme très bref n'est pas galvaudé puisque Peggy l'avoue elle-même, elle dit « Si je devais mettre à vous tous les moments où Al m'a fait l'amour, je ne dépasserais pas la demi-heure. Après 15 ans de mariage, je comprends qu'elle soit frustrée. » Bref, les voisins des Bundy ne sont pas en reste au niveau de la sexualité, puisque au départ, ils sont quand même présentés comme le petit couple américain modèle qui vient faire la morale à leurs méchants voisins qui viennent toujours un petit peu mettre leur petit grain de sel, mais progressivement, Marcy et Steve, et surtout elle, Marcy, se révèlent être plutôt branchée cul, je dirais ça comme ça, puisque c'est une véritable nymphomane accro au sexe. Son mari d'ailleurs la quitte pour ça, parce qu'il en a marre de cette femme dominatrice qui ne pense qu'à ça. Et dans les premiers épisodes de la saison 2, ils arrivent quand même à se faire arrêter par la police en pleine rue, alors qu'ils s'adonnaient à des jeux de rôle sexuels déguisés. C'est assez rigolo.
La manière du départ du mari est aussi assez cocasse.
Ah oui, ça c'est sûr, puisqu'il part acheter des cigarettes et il ne revient jamais. Et la pauvre l'attend toujours. Bon, elle finit par se marier avec un homme plutôt, on va dire, beau et rien dans le ciboulot. C'est assez comique aussi. Alors un autre thème récurrent, c'est la nullité de Peggy en tant que femme au foyer, puisque c'est la véritable antithèse de la femme parfaite. Peggy ne fait rien de ses journées. Comme j'ai dit au départ, on a un peu pris de pitié pour elle, on se dit oh, mais elle a pas de chance d'avoir épousé quelqu'un comme Al, elle doit être bloquée avec ses deux enfants chez elle et tout. Mais on a moins pitié pour elle dès qu'on voit après à quel point elle est égoïste, elle ne pense qu'à elle, et elle refuse catégoriquement de faire la moindre chose qui se rapporte au ménage, puisque on a d'ailleurs cette réplique célèbre de la série qui résume bien la situation. Al, j'ai eu peur. Et Al qui lui fait, pourquoi tu as vu un aspirateur? Donc voilà, comme ça au moins ça c'est bien clair. Donc c'est l'opposé exact de Brie Van de Kamp de Desperate Housewife, puisqu'elle ne passe jamais l'aspirateur, elle nettoie jamais le linge et surtout ne fait jamais à manger convenablement. Les rares fois où elle fait à manger, la bouffe en général termine dans la gamelle du chien qui des fois même refuse de manger. Donc c'est pour dire à quel point ça va quand même très loin. Et le reste du temps, la famille se voit obligée de racler les fonds de placard pour trouver un reste de nourriture. Ils se contentent parfois de quelques restes, ou même lorsque la voisine amène un os à moelle pour le chien, ils se battent pour gratter le reste de viande quand même, et ils mangent l'os à la place du chien, donc ça fait quand même très peur. Autre thème, ce sont les relations hommes-femmes. Bon, là, c'est un peu un thème classique dans les sitcoms, mais ici, quand même plutôt passé à la moulinette, puisque il se passe pas un épisode sans que Peggy ou Al donne un conseil vaseux à leur interlocuteur concernant la vie de couple et les rapports amoureux. Et là, leurs théories sont souvent farfelues, voire totalement tordues. Al semble sortir tout droit de la préhistoire, c'est l'homme de Cro-Magnon dans ses raisonnements, et Peggy s'emploie à faire l'exact opposé de ce que toute femme normalement constituée ferait.
Bon, en gros, elle fait pas grand-chose de ses journées. journée, on est loin quand même de la maman de cette à la maison et des mères travailleuses, bosseuses.
Oui, on est très loin de toute façon de tout ce qui avait pu être montré à la télévision avant, ce qui explique un peu le statut de série culte pour marier deux enfants.
On est aussi du côté de l'image de la femme comme dans Absolutely Fabulous quelque part.
Oui, dégradée, bon, pas très à la mode finalement, mais c'est vrai que dégradée, quoi, et dégradante aussi. Donc elle se fait souvent reprendre à l'ordre par sa voisine qui lui fait mais enfin, mais tu devrais travailler, tu devrais essayer de t'émanciper. Peggy qui la regarde en disant mais ça va pas ou quoi, je préfère être à la maison à rien faire et mon mari qui ramène de l'argent, je suis bien contente. Donc là on est vraiment à l'opposé même de ce qui se fait maintenant, puisque maintenant limite on nous montre des femmes au foyer qui sont tristes de ne pas pouvoir
malheureuse,
travailler.
Ouais.
Voilà, malheureuse, alors qu'ici même si elle est malheureuse quelque part dans sa vie de famille, parce que je crois qu'elle n'a pas souhaité ça, elle arrive à trouver son compte, je dirais.
Vous savez monsieur Bundy, je travaille dans cette bibliothèque depuis 44 ans. Je pouvais faire valoir mes droits à la retraite il y a 3 ans. Vous savez pourquoi je suis restée ?
Vous dévoriez les bouquins.
Vous êtes un être répugnant. J'ai gardé ce travail pour une bonne raison. Je savais que je vous coincerais, c'est chose faite. Pas de Garrett a eu Billy, the kid. Et moi, je vous ai enfin eu. Ma tâche est terminée. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Laissez-moi vous dire, j'aurais pu vous amnistier pour ce livre, je l'aurais fait pour n'importe qui d'autre. Mais je vous ai toujours eu en aversion. Est-ce mal de haïr un gamin de 9 ans? Non! Pas quand ce gamin, c'est vous! Ça a été la joie de ma vie de vous voir grandir et devenir ce que je prévoyais que vous deviendriez. Un bon à rien, zéro absolu et total. Aujourd'hui, quand je monterai en voiture et que je quitterai cet endroit définitivement, je me sentirai en paix. Votre honte publique sera ma récompense.
Vous trouvez que je suis un bon à rien? Et tout ça parce que j'ai un travail débile que je déteste. Une famille qui ne me respecte pas. Que toute la ville maudit le jour où je suis venu au monde. Pour vous, je suis peut-être un bon à rien, mais laissez-moi vous dire une chose. Chaque matin, je me réveille en sachant que tout ira de mal en pis jusqu'à ce que je puisse retrouver mon lit. Pourtant, je me lève et je bois mon café en poudre sans eau et je mange un croissant, pas décongelé. Je monte dans ma voiture qui n'a ni pare-brise ni essence et que je n'ai pas fini de payer. Et j'affronte les bouchons pour avoir le privilège de mettre des chaussures bon marché aux pieds fourchus d'énormes monstres comme vous. Je ne jouerai jamais au football comme j'avais rêvé de le faire. Je ne connaîtrai jamais les caresses d'une femme de rêve. Mais je ne connaîtrai plus jamais la joie de conduire sans un masque sur la tête. Mais je ne suis pas un bon à rien. Parce que malgré tout, moi et tous les autres qui, comme moi, ne seront jamais ce qu'ils avaient rêvé d'être, nous serons toujours là, mal dans notre peau, mais toujours bien là, pendant 40 heures par semaine, à vie. Et le seul fait que je ne me sois pas suicidé en me tirant une balle dans la tête, espèce de pudding ambulant, fait de moi un vrai gagnant.
Je vais faire un petit peu la critique de Marier deux enfants. Alors, on l'a taxé de série culte. Je ne peux que donner raison aux gens qui appellent ça série culte, puisque je l'ai dit, ça a dynamité quand même un genre qui sombrait un peu dans la monotonie à l'époque. Marier deux enfants se permet vraiment toutes les folies scénaristiques, sans retenue, sans tabou. Toutes les situations, de la plus glauque à la plus surréaliste, sont abordées avec un premier degré qui est totalement assumé. On se rappelle, par exemple, pour ce côté un peu absurde, je me rappelle de cette séquence où ils vont manger dans un restaurant. Ils s'offrent un petit restaurant chic parce qu'ils ont gagné un petit peu d'argent, il y a eu un héritage. Donc déjà, ils étaient ravis que la personne soit morte, ils sont trop contents. Après, ils sont très fâchés lorsqu'ils apprennent qu'ils ne gagnent que 200$ de cet héritage. Mais ils se disent, bon, allez, on va s'offrir un restaurant chic. Ils arrivent dans ce restaurant, alors dénués de toute considération de politesse ou de bonne tenue en société, les Bundy se goinfrent comme des porcs. Mais bien évidemment, arrive le gag de Al qui a oublié son portefeuille, et donc le chèque, et donc incapable de payer. Et ils essayent de rester le plus longtemps possible au restaurant, ils essayent de sortir en dansant le tango, l'air de rien, en s'approchant de la sortie, mais rien n'y fait. Et pour finir, Peggy trouve une solution géniale, elle déchausse Al, et elle prend en otage tout le restaurant grâce à l'odeur des pieds de Al, quand même. Donc, on voit les serveurs mettre leurs bras en l'air comme si c'était braqué par une arme à feu, et ils arrivent à s'en sortir grâce à ça. Et pour finir, pour les tenir à distance, elle jette quand même à la fin une chaussette en plein milieu du restaurant pour empêcher les gens de les suivre. C'est un petit peu absurde, mais c'est totalement assumé, donc c'est ça qui est assez plaisant. Vraiment, dans cette série, toute la société américaine, même toute la société en général, est passée sous acide sulfurique. Rien ni personne n'est épargné. Les homos, les belles-mères, on passe par toutes les situations possibles et imaginables. Et c'est d'autant plus drôle de constater cette liberté de ton, ce ton politiquement incorrect, que la série est née sur le réseau de télévision Fox, un réseau qui est pourtant aujourd'hui très marqué républicain et conservateur. Lorsque ce réseau a été créé, il se cherchait justement une image. Il voulait essayer de trouver une image un peu jeune et branchée, et marier deux enfants et tomber à pic. Bon, peut-être aussi qu'il ne savait pas très bien sur quoi ça allait déboucher, puisque comme Alex me disait tout à l'heure hors antenne, c'est que le premier épisode, l'épisode pilote, est très très léger par rapport au reste de la série.
C'est vraiment en deçà. Ne vous fiez pas au pilote, parce que le reste est encore mille fois beaucoup plus subversif. On a l'impression qu'ils ont voulu faire léger pour se dire chouette, on va signer le contrat et puis après on va se lâcher complètement, et je crois que ça a vraiment marché.
Oui, ça c'est clair, il y a ce ton 100% politiquement incorrect, mais qui n'a pas toujours plu, parce qu'il y a quand même quelques épisodes qui ont été censurés ou qui ont été extrêmement critiqués. Je pense par exemple à l'épisode du Père Noël, puisque les Bundy et les voisins regardent leur télé, puisqu'il y a un centre commercial qui a décidé de faire venir le Père Noël qui va passer les fêtes dans le centre, il décide de le faire descendre en parachute. L'événement est retransmis par la télévision, et bien sûr rien ne se passe comme prévu puisque le parachute ne s'ouvre pas et que le Père Noël s'écrase dans le jardin des Bundy, comme par hasard. Donc c'est un épisode qui présente la mort du Père Noël, puisque la séquence d'après, on voit quand même le Père Noël qui se fait enlever par les policiers sur un brancard avec un drap noir dessus. Donc on se dit oula, et les Bundy ne réagissent pas trop par rapport à ça. On les voit en train de manger après une pizza, ils sont tout contents, ils sont tout gentils. Donc, c'est un épisode qui avait pas mal choqué. Un autre épisode qui a été censuré, lui complètement, qui n'a jamais été diffusé et qu'on retrouve par contre sur le DVD, c'est lorsque Al et Peggy dorment un soir à l'hôtel. Peggy arrive à ses fins puisqu'elle arrive à convaincre Al d'avoir d'un rapport sexuel avec
elle. C'est déjà un grand exploit.
Oui, déjà, ça c'est un grand exploit. Seulement, les Bundy ont été filmés à leur insu par un voyeur de l'hôtel.
C'est bien la peine.
Voilà, ils décident de porter plainte contre ce voyeur, mais une plainte qui se verra finalement rejetée parce que le juge estime que le rapport étant si court qu'il estime que ce n'est pas possible que ce soit un rapport sexuel. Donc là, au moins, là c'est clair. C'est un peu particulier. Bref. Donc pour moi, je trouve que Marie et deux enfants est une série qui vaut vraiment le coup d'œil, même si elle n'est pas exempte de défauts. Son côté très redondant, c'est quand même très souvent les mêmes blagues qui reviennent, même si c'est souvent drôle. Il y a vraiment quelques épisodes qui sont vraiment à hurler de rire, mais il y a aussi beaucoup où on se dit, bon allez, cette blague-là, on la connaît. Kelly et son frère qui se disputent, Peggy qui demande à Al de faire l'amour, on connaît. Et c'est vrai qu'au bout de 11 saisons, on se dit, bon là, maintenant, il faudrait pas à autre chose. Donc je conseille surtout de regarder les premières saisons qui sont vraiment les plus drôles. Après, ça commence un petit peu à se lasser. En plus, ils grandissent et le ton politiquement incorrect, même s'il est toujours là, commence à lasser en fait.
Comme beaucoup de séries finalement.
Oui.
Et la VF ?
J'allais justement terminer par ça, c'est que ouais, je conseille les gens de regarder la série, mais en version originale plutôt, puisque dans la VF, il y a quand même une bonne... Même si elle est très connue, la VF, hein, je crois que tout le monde a été bercé par les voix de ces personnages, mais il y a pas mal de blagues qui passent pas du tout en version française.
Oui, ou qui sont même édulcorées.
Oui, qui sont édulcorées. Donc la série est beaucoup plus salace, je dirais, en version originale qu'en version française.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.